bienvenue pour ceux qui sont de passage, qui nous visitent. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter une caractéristique particulière d'un homme, lui aussi, qui est très particulier, Jacob. Si je vous pose la question, quel adjectif ou trait singulier vous associez à ce patriarche, que me répondez-vous ? Oui, oui, rusé, oui. Un peu margoulin même. Alors, il y a beaucoup à dire sur Jacob. En bien des points, il fait preuve d'un manque total d'honnêteté, de confiance en Dieu. C'est le personnage biblique qui essaye d'abord d'utiliser sa solution avant de s'en remettre à la souveraineté divine. Je vous propose de parcourir la vie de ce patriarche et de nous arrêter sur quelques moments clés de celle-ci. Mais, car il y a un mais, s'il essaye d'abord sa solution, une solution humaine, sans consulter l'Éternel, il est aussi celui qui place comme objectif premier d'être l'objet de la bénédiction et estime les promesses qui s'y rattachent. Cette recherche d'être choisi, élu et béni est le fil conducteur de la vie de Jacob. Par ailleurs, pleine de moments difficiles et douloureux, provoqués par ses choix de solutions toutes humaines et souvent malhonnêtes. C'est même, serais-je tenté de dire, génétique chez Jacob, car ce trait se manifeste pendant sa venue au monde. Nous lisons dans le chapitre 25 du livre de la Genèse, au verset 19. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux comme un manteau de poils, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquirent. L'histoire se répète pour le fils promis à Abraham par Dieu lors de son appel. Sa femme, Rebecca, est stérile, comme l'était Sarah sa mère. Dure mise à l'épreuve de sa foi durant 20 ans. Quand la promesse divine fait de ces hommes les pères d'une grande nation, par laquelle seront bénies toutes les nations. Mais Isaac implore son Dieu et la réponse divine est source d'inquiétude pour Rebecca, qui ressent une lutte au sein de son ventre. Mais un seul sera déclaré aîné et donc, selon la tradition, héritera de privilèges liés au premier-né mâle de chaque famille. Ce droit comportait des avantages liés au statut social, à l'héritage et aussi des responsabilités dans la reprise des affaires du père. Le choix divin est arrêté. Dans sa préconnaissance de toutes choses, il indique clairement que qui sera le plus puissant et deviendra le père de la nation élue. Ce sera, contrairement à la tradition, le plus jeune de quelques minutes seulement, faut-il noter. Mais ces quelques minutes ne sont pas du goût du futur Jacob qui s'accroche au talon de son frère lors de l'accouchement. C'est la première manifestation de la volonté sans faille de Jacob d'avoir cette première place et la bénédiction qui s'y rattache. Il est donc le cadet, mais attend le bon moment pour forcer les conséquences rattachées à cela. Les deux frères sont devenus adultes et ont des caractères et des occupations différentes. Ésaü revient des champs, très affamé, et trouve son frère en train de cuisiner une soupe. Nous lisons dans Genèse 25 au verset 29. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi manger, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Et il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Cette dernière phrase nous indique pourquoi c'est Jacob qui est celui que Dieu a choisi pour hériter des bénédictions promises à Abraham et à Isaac. Ésaü méprise son droit d'aînesse au point de l'échanger contre un peu de soupe. La proposition de Jacob peut paraître totalement disproportionnée, mais c'est aussi l'esprit profane d'Ésaü qui est mis en lumière dans cet événement qui va sceller l'inimitié entre les frères. Il a pris cela pour quelque chose de banal, oubliant que la bénédiction que lui donnera son père est rattaché à ce droit perdu pour un peu de nourriture bien vite avalée et digérée. L'apôtre Paul nous le rappelle dans son épître aux Romains au chapitre 9 et au verset 11. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Attention à la traduction dans bien des versions de ce dernier passage. Le verbe haïr est peut-être plus à voir comme détester, ce que nous dit la version Second 21 ou Nouvelle Bible Second, ou pas aimer dans la semeur. La réponse à cette question du choix divin est dans les deux versets qui suivent. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Nous comprenons donc que c'est la miséricorde et la compassion de Dieu qui sont à l'œuvre. Mais Jacob, s'il a obtenu par un marché peu équitable le droit d'aînesse revenant à son frère, n'a pas encore reçu la bénédiction qui sera prononcée par son père. Ésaü choisit des épouses hittites, qui seront un sujet d'amertume pour ses parents. Isaac perd sa clairvoyance, tant physique que spirituelle. Il manifeste sa préférence pour Ésaü, qui en bon chasseur lui ramène du gibier. C'est donc la gourmandise qui prend le dessus pour ce choix si important de qui sera béni en tant que père du peuple de Dieu. Est-ce que Rebecca ne l'a pas informé du choix divin? Mais elle connaît et garde dans son cœur la prophétie donnée avant la naissance des jumeaux. Elle reste attentive aux événements. La demande du patriarche pour un bon plat de gibier qui sera suivi de la bénédiction du chasseur et cuisinier Ésaü est interceptée par cette mère qui veut que ce soit Jacob qui soit béni, lui l'héritier des promesses. Mais quel stratagème est mis en scène pour duper ce père qui a perdu sa clairvoyance? En effet, le moment est grave. Ésaü va être béni et Rebecca va mettre en œuvre un stratagème d'une malhonnêteté choquante pour éviter que la bénédiction ne revienne à l'aîné. Si nous lisons au chapitre 27 et au verset 5 de la Genèse, Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau deux bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime, et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, « Voici Ésaü, mon frère, est velu, et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. » Ce qui surprend à la lecture de ce chapitre, c'est le manque de confiance, donc de foi, de Rebecca quant à la puissance et à l'intervention divine pour que la prophétie se réalise. Dieu peut-il se renier et revenir sur sa promesse? Jacob est-il l'héritier des promesses faites à ses pères? Il y a urgence. Au lieu d'intercéder auprès de Dieu, de lui demander d'agir, on invente dans la précipitation un scénario digne d'un film hollywoodien. Dieu laisse faire. Il aurait pu intervenir et prendre en main la situation, se rappeler à Isaac son plan et son choix. Mais il laisse cette mascarade aller à son terme. Si Rebecca en est à l'origine, Jacob accepte cette tromperie et va devoir mentir trois fois à son père. Il se fait passer pour son frère à la question « Qui es-tu ?» Puis à la remarque de la rapidité de cette chasse, il répond que c'est le Seigneur, ton Dieu, qui a précipité le gibier vers le chasseur. Puis enfin, face aux soupçons d'Isaac, il confirmera bien être Ésaü. On remarque que quand Jacob parle de l'Éternel, il parle du Dieu de son père, à croire que ce n'est pas encore le sien. La question qui interpelle, pourquoi l'Éternel n'intervient pas? Il laisse les responsables commettre tous les péchés générés par cette solution humaine, dont le mensonge, la tromperie. Lui, le Dieu de vérité, ne peut agréer le recours au mensonge, mais ses plans s'accomplissent malgré tout. Par contre, cette tromperie aura des conséquences bien pénibles pour la suite de la vie de cette famille. Jacob et Rebecca devront en payer le prix. Une séparation et un frère qui projette le meurtre de Jacob pour lequel il rappelle la signification de son nom, le supplanteur. Et ce prix du péché commence par l'éloignement de Jacob d'avec sa famille. Il doit, sur le conseil de sa mère et sur l'ordre d'Isaac, revenu à plus de lucidité, aller vers la famille de sa mère à Padan Aram pour y prendre une épouse. Isaac renouvelle sa bénédiction au chapitre 28. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. « Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. » Oui, Jacob a obtenu la bénédiction. C'est ce qui a été le fil conducteur de sa vie. Mais une autre aventure commence pour cet homme rusé qui doit fuir pour éviter la vengeance de son jumeau. Dieu veut confirmer directement à Jacob ses promesses au travers d'un songe. La teneur de ce songe et les paroles de l'Éternel sont la confirmation de la bénédiction d'Isaac et bien sûr celle aussi donnée directement à Abraham. Dieu confirme l'élection de Jacob et sa promesse d'être avec lui partout et tout le temps. Le réveil de Jacob nous laisse voir sa peur. Il trouve le lieu redoutable, malgré les engagements divins si positifs pour lui. Mais Jacob va encore entrer en tractation avec l'Éternel. Il met des si à sa foi, à son choix de servir l'Éternel. « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger, et des habits pour me vêtir. Et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Surprenant Jacob, Dieu vient de lui confirmer son choix, ses promesses, sa bénédiction, full package, comme on dirait, mais il met en quelque sorte en doute la puissance de ce Dieu qui ne sera le sien que si tout se passe comme il le souhaite. Notre négociateur poursuit sa route vers la maison de son oncle Laban, frère de Rebecca, un autre habile négociateur. Jacob va la prendre à ses dépens. Nous connaissons tous la rencontre avec Rachel et le choix du cœur de Jacob pour cette femme. Et Jacob va être l'objet d'une tromperie aussi tordue que celle utilisée pour tromper son père. Il a travaillé 7 ans pour Rachel et on lui donne Léa, l'aînée, la nuit de noces, avec comme explication au réveil que c'est la tradition. Jacob doit apprendre de dures leçons durant tout son séjour chez Laban, mais aussi, bien sûr, tout le reste de sa vie. Il travaille plus de 20 ans pour Laban, mais il prépare son départ en se constituant, aux dépens de son beau-père, un troupeau d'exception par une innovation sur la sélection génétique. Son départ avec toute sa famille et ses immenses troupeaux sera encore l'objet d'une fuite sans prévenir son beau-père et d'une course-poursuite engagée par ce dernier se sentant trahi. Jacob va devoir négocier encore avec Laban et conclure une alliance en guise de solde de tout compte, comme l'on dirait de nos jours. Les 20 ans passés loin de ses parents n'ont pas calmé la crainte de vengeance de la part d'Ésaü. Jacob commence donc à préparer ses retrouvailles de manière très diplomatique. Il utilise même une sémantique porteuse d'un contresens. Il fait dire à son frère via des messagers qu'il est le serviteur d'Ésaü qu'il appelle « mon Seigneur », alors que l'Éternel a clairement indiqué que Jacob et sa descendance domineront Ésaü et sa descendance. Il divise sa troupe en 2 familles, serviteurs et bétail, pour ne pas tout perdre en cas où ça se passerait mal. Puis après avoir fait tout cela, en dernier recours, il intercède. Nous le trouvons au chapitre 32 au verset 9. Jacob dit, « Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme 2 camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait la compter. » Il est à noter que c'est encore le Dieu d'Abraham, celui d'Isaac. Mais est-ce le sien au sens propre? Il se place dans une position d'humilité et reconnaît que c'est la grâce divine qui est à l'origine de sa prospérité. Jacob se dit qu'il serait bien de rappeler à Dieu ses promesses au cas où il les aurait oubliées. Et prépare un cadeau exceptionnel pour calmer les velléités de son jumeau, en restant dubitatif sur son utilité. Peut-être m'accueillera-t-il favorablement? Mais cette nuit-là, Jacob a un rendez-vous qui va bouleverser sa vie. Ce passage où Jacob lutte avec un homme, ou plus exactement d'après le verset 25 du chapitre 32, c'est un homme qui se battit avec Jacob. En réalité, Jacob lutte avec un envoyé divin sous la forme d'un homme. C'est une théophanie que nous confirme le prophète Osée au chapitre 12 et au verset 3. Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. Il pleura et lui adressa des supplications. Jacob l'avait trouvé à Bethel et c'est là que Dieu nous a parlé. Nous lisons Genèse 32 au verset 24, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit « Quel est ton nom ?» Et il répondit « Jacob. » Il dit encore « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il « J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. » C'est maintenant Israël qui poursuit son chemin vers le pays promis. Un homme qui boite et gardera toujours la séquelle de cette lutte, mais qui est sorti avec la confirmation de son élection et des bénédictions divines qui lui sont associées. Mais là encore, de nombreuses épreuves restent à venir dans la vie de Jacob devenu Israël. La rencontre avec Ésaü, la violence de ses deux fils Siméon et Lévi pour venger leur sœur, et la perte de Rachel, sa bien-aimée, lors de la naissance de son dernier fils. Puis la dernière grande épreuve de sa vie sera la vente de Joseph par ses frères, sauvé de la mort par l'arrivée d'une caravane d'Ismaélites en route vers l'Égypte. Nous connaissons tous l'histoire et le destin extraordinaire de Joseph. L'histoire et le destin extraordinaire de Joseph, vendu comme esclave en Égypte, et qui deviendra par la grâce divine le second après Pharaon du plus grand royaume de ce temps. Mais pour Jacob, la tromperie de ses fils, lui indiquant par un énorme mensonge et une méchante mise en scène la mort probable de ce fils, issu de Rachel, sa bien-aimée, mort violente car dévorée par un animal féroce. Le mensonge rattrape celui qui en a usé plus tôt envers son père. De longues années vont passer avant que Dieu, dans sa souveraine miséricorde au travers d'une nouvelle épreuve, en l'occurrence une famine, ne mette les enfants d'Israël en présence de ce frère haï, devenu gouverneur d'Égypte et aussi dispensateur de leur salut par le biais des provisions qu'il leur fournit. La nouvelle de ce miracle sera brutale pour Jacob. De retour avec les provisions, les menteurs devront informer leur père. Nous lisons au chapitre 45 au verset 25. Ils remontèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays de Canaan auprès de Jacob leur père. Ils lui dirent « Joseph vit encore et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte ». Mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne les croyait pas. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Et Israël dit, « C'est assez, Joseph, mon fils, vit encore, j'irai et je le verrai avant que je meure. » Dieu confirmera cette bonne nouvelle et aussi le fait qu'il doit aller en Égypte avec sa famille, qu'il y deviendra une grande nation. Dieu l'accompagnera et Joseph sera là, comme cela lui a été promis, pour lui fermer les yeux lors de son décès. Maintenant, ce Jacob qui toute sa vie a recherché et même arraché la bénédiction, va devenir un bénédicteur. C'est Israël, celui qui a lutté avec Dieu et avec les hommes et qui l'a emporté selon la signification donnée par Dieu sur son nouveau nom, qui va se trouver devant Pharaon et le bénir. Il reconnaîtra devant ce monarque que les 130 années de sa vie de nomade ont été courtes et mauvaises et n'ont pas atteint celles de ses pères. Il va vivre encore 17 ans et verra la prospérité de sa famille par la grâce de l'Éternel agissant au travers de Joseph pendant cette période de famine. Nous pouvons noter son évolution. Lui qui parlera toute sa vie du Dieu de ses pères lors de la bénédiction des enfants de Joseph, le nommera son conducteur ou son berger, selon les traductions. En Genèse, chapitre 48, verset 15, il bénit Joseph et dit « Que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. » Nous pouvons aussi remarquer que ces enfants nés en Égypte d'une mère égyptienne sont adoptés par Israël comme descendants en ligne directe. Jacob a laissé place à Israël, il a rendu les armes. Ses combines lui auront coûté bien des peines, mais dans sa fidélité, Dieu accomplit ses promesses. Il bénit cet homme qui a placé comme objectif principal de sa vie les bénédictions divines. Quelle application pour nous que cette longue narration de vie d'un homme tellement humain, mais aussi tellement désireux d'être celui qui est choisi par Dieu et béni, qui s'étale sur 25 chapitres de la Genèse. Tout d'abord, je dirais que Dieu est juste et ne peut tolérer le mal, en l'occurrence le mensonge, la tromperie, même si c'était pour la bonne cause dans le cas présent. Il permettra à Jacob d'apprendre par les nombreuses épreuves de cette longue vie, 147 ans, qu'il juge lui-même courte et mauvaise. Le manque de foi manifesté lorsqu'il met en action sa solution sans attendre l'intervention divine est aussi lourde de conséquences. Mais Dieu a promis et tient ses promesses hier comme aujourd'hui. Alors attendons la réponse divine et évitons de mettre en route notre solution propre, non inspirée par l'Esprit Saint, même si je trouve le délai de Dieu un peu long. Nous partageons une promesse avec Jacob, celle d'avoir notre nom changé. « On ne te nommera plus Jacob, mais Israël, lui dit l'ange de l'Éternel. » Voyons ce que l'ange dit à l'église de Pergame, en Apocalypse, chapitre 2, verset 17. « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. » Alors oui, Jacob fut un vainqueur. Il a lutté et son nom fut changé. Nous sommes tous appelés à être des vainqueurs. La victoire ayant été acquise par Christ à la croix, notre victoire étant de nous en saisir par la foi et d'y rester fidèles, même quand tout va mal. Sur ce caillou blanc, un nom nouveau, seul connu de celui qui le reçoit. Les promesses faites aux sept églises dans le livre de l'Apocalypse sont adressées aux vainqueurs, pour les sept églises, même si bien des choses sont reprochées à chaque église, mais il y a des vainqueurs. Il nous faut tenir ferme ce que nous avons reçu et estimer comme Jacob notre héritage et les promesses divines qui sont intangibles. Et je dois me souvenir que les choix dictés par mon propre arbitre se payent très cher, comme nous avons pu le découvrir dans ce survol de la vie du patriarche. Que Dieu, dans sa grâce, nous donne tous d'être désireux d'entrer un peu plus dans notre héritage céleste, déjà sur cette terre, de l'apprécier, de le rechercher en attendant le jour de la pleine possession lors de l'avènement de notre Sauveur et Seigneur. À lui soit toute la gloire.